Bien, donc pendant les mois de juillet et août, nous allons essayer de faire une grande traversée biblique de ce thème de la prière. Donc je ne vais pas commencer en vous faisant un topo sur ce qu'est la prière. L'idée, c'est de pouvoir glaner les éléments au fil des rencontres pour que vous puissiez vous-même vous forger votre propre approche par rapport à la prière en étant finalement instruit par différents exemples de prière. C'est l'apprentissage par l'exemple, en quelque sorte. Je vais peut-être juste vous donner quelques indications en termes de vocabulaire pour que vous soyez attentifs à ce que l'on peut espérer trouver et ce qu'on ne trouvera pas dans les textes bibliques relativement à la prière. C'est-à-dire que, dans la mesure où vous avez souvent accès aux traductions françaises, il faut tout de suite lever une ambiguïté. C'est qu'il y a d'un côté des mentions de prière. Je pense notamment si vous regardez une concordance et que vous cherchez les mots utilisés, par exemple dans Louis II, quand il y a écrit Je te prie, ça peut être une formule de politesse simplement. Et cette formule de politesse, elle renvoie simplement à un petit mot hébreu qui signifie na. Et en fait, c'est au lieu de dire je te demande, c'est je te prie. Vous voyez, c'est une sorte d'insistance de politesse. C'est quasiment une supplique. Et en français, c'est restitué par je te prie. Alors c'est simplement je te demande. Donc il n'y a pas de connotation liturgique. Donc ça se prononce na. Et ça se met après le verbe. Donc, c'est le cas le plus fréquent, en fait, dans les textes de Louis II. Le verbe prier, c'est le verbe de politesse. Je te demande avec déférence.
Quand on était petits, nous, on nous faisait dire, je te prie, maman,
D'ailleurs,
veux-tu me donner un peu d'eau?
Voilà. Et je vous prie de demander la parole quand vous. C'est exactement ça. Voilà. Donc ça, c'est juste un point de vigilance. Vous verrez dans nos traductions protestantes, avec Louis II qui prend soin d'avoir un vocabulaire châtié, que prier, c'est simplement cette relation. Ensuite, en hébreu, on a essentiellement deux termes qui vont désigner la prière. Le premier, c'est palal. Palal. Qui veut dire prier au sens d'intercéder. On connaît la prière d'intercession, c'est le fait de porter dans notre intention, dans nos voeux, la cause d'une autre personne. Et en grec, ça va être traduit par prosekomai. Et ça, c'est donc le terme qu'on trouvera dans le Nouveau Testament. Quand on parle de prière, c'est essentiellement ce verbe prosekomai. Donc, palal qui donne prosekomai. Et c'est donc, disons, intercéder. Et puis, il y a un autre verbe, c'est le verbe hatar. Qui n'est pas très éloigné, mais ce serait plutôt plaider. Vous voyez, entre plaider et intercéder, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais disons qu'ici, il y a un peu l'idée d'entremise, de médiation. Et là, il s'agit plutôt de défendre une cause qui peut être la sienne. Alors que intercéder, c'est en général une forme d'altruisme. Et c'est traduit en grec par eukomai. Donc là, le préfixe pros, ça indique le fait que on se rend vers quelqu'un ou vers quelque chose. Il y a l'idée de mouvement. Et eu, c'est comme dans heureux ou comme dans euangelion, évangile, c'est bien. Donc l'idée, c'est une démarche positive vers. Et c'est bien le sens de l'intercession ou de la plaidoirie. En grec, dans le Nouveau Testament, il va y avoir deux autres mots qui, en quelque sorte, ont vraiment influencé ce qu'est la prière dans la pratique chrétienne. Comme vous avez pris des notes, je peux effacer le haut, ce sera plus facile pour vous de le lire. Le premier, c'est erotao, qui veut dire demander, et qui est souvent traduit par prier. Par exemple, quand Jésus va prier, selon l'évangile de Jean au chapitre 17, vous savez, il y a cette longue prière qu'on appelle la prière sacerdotale, « Je ne te prie pas de les retirer du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, en fait. » Tout ce qui est traduit par « prier » dans l'évangile de Jean, chapitre 17, c'est en fait de l'ordre de la demande. Et puis l'autre, c'est « deomai », et là, c'est supplier, implorer. Vous voyez, il y a une sorte de glissement de sens par rapport à la première série issue de l'usage hébreu. C'est qu'on est de exposons une situation et essayons de la défendre à demandons quelque chose. Et ce glissement va finalement créer ce grand spectre que couvre la prière de nos jours. D'un côté, la prière comme exposition de l'intime, et c'est ce que nous allons voir avec ce texte de Jérémie. Et puis à l'autre bout, la demande, demande de tout et du reste. Hein. C'est la demande de guérison, c'est la demande de richesse, c'est la demande d'être libéré de ses ennemis, c'est la demande que nos désirs s'accomplissent. Et on va, à travers tous les textes que nous allons parcourir, voir qu'il y a toujours un peu ces deux pôles qui sont pris en charge d'une manière ou d'une autre. Donc, dernier point de transition avant d'entrer dans notre texte de Jérémie. Comme pour toute question biblique, quand on veut s'intéresser à la prière, il ne suffit pas de chercher les textes où tous ces mots-là vont être utilisés. Parce que c'est un peu comme pour les frites McCain, ce sont ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. Bonjour. Et donc, quand on est en train de prier, on ne dit pas qu'on est en train de prier, on prie. Et donc, la plupart des textes de prière racontent la prière sans dire que c'est une prière. Et là, précisément, dans le texte de Jérémie, Jérémie ne va pas dire « je te prie ». C'est en fait un dialogue qui va être raconté entre Dieu et le prophète Jérémie. Autrement dit, quand on s'intéresse à un thème dans les textes bibliques, il ne faut pas simplement faire un travail de concordance pour voir où le mot-clé est utilisé. Il faut en fait avoir déjà un peu une connaissance des textes bibliques pour savoir quels sont les textes qui abordent cette thématique. Vous savez par exemple que il n'est pas du tout question de péché dans le texte qui parle du repas d'Adam et Ève. C'est rétrospectivement que des théologiens ont dit, eh bien voilà, là nous avons le texte qui évoque ce qu'est le péché pour la première fois, alors que le texte lui-même ne parle pas de péché. Donc il faut être vigilant sur le fait que quand on s'intéresse à un thème, le thème n'est pas forcément explicite au sein du texte biblique qui lui par contre sera intéressant pour comprendre le thème. Donc, ce que je propose, c'est qu'on commence par relire l'intégralité de ce texte de Jérémie. Alors, je vous ai proposé une traduction Louis II, parce que c'est les traductions auxquelles on est les plus habitués. Il ne faut pas en être esclave, mais notamment pour ces textes-là, en général, elles sont vraiment très bonnes. Je vous indiquerai ici ou là quelques petits ajustements qu'on peut faire pour que la traduction soit encore plus précise. Voilà, si quelqu'un pouvait peut-être lire dans un premier temps jusqu'au verset 12, et puis quelqu'un qui lirait du verset 13 à la fin.
Oui, bien sûr. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne à l'entour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause.
Moi, si quelqu'un peut prendre la suite.
Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, qui t'est né un enfant mâle et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sortie du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte?
Voilà. Donc, je pense que c'est une excellente porte d'entrée dans le thème de la prière, parce que nous allons voir que cela aborde beaucoup d'aspects différents de ce que peut être une prière, et cela, comme ça, pourra nous aider à instruire notre propre prière. Je vous rends attentif tout d'abord à un petit détail du texte hébreu. Vous avez peut-être repéré qu'il y a ici ou là une lettre seule. C'est le cas à la fin du verset 12. C'est la raison pour laquelle je vous ai proposé de faire une rupture. Vous voyez, il y a une lettre seule. C'est ce qu'on appelle un setouma, l'équivalent d'un S. Et ça veut dire fermeture, en fait. C'est-à-dire que c'est un petit signe qui permet de dire, eh bien, voilà, c'est la fin d'une section, en fait. On est à la fin de quelque chose de cohérent, et c'est aussi pour mettre en évidence certains passages. Vous voyez qu'il y en a un autre à la fin du verset 13. Le verset 12, en fait, est entre deux setoumot. Et on sent bien que le verset 13 n'est pas à sa place, en fait. C'est comme une citation, vous voyez. C'est comme si on utilisait une phrase de psaume pour nourrir notre propre prière. Et le texte biblique garde une trace de cette suture. Et puis, tout à la fin, au verset 18, il y a cette lettre, le P. Le P, c'est en fait l'initiale de ce qu'on appelle paracha. Et ça, le P, paracha, vous l'entendez lorsque vous vous intéressez aux commentaires de la Torah à la synagogue. Le rabbin commente en fait une paracha. En français, français académique, on dirait une péricope, c'est-à-dire un passage biblique qui a été coupé avant et après, un péricope autour et au milieu, enfin coupé autour, disons. Et donc une péricope, c'est un extrait biblique. Quand le pasteur prêche le dimanche matin, il a choisi un texte, et donc c'est ce qu'on appelle une péricope. Et en hébreu, c'est une paracha. Et les parachas sont toujours indiqués par cette lettre P, et elle constitue donc un ensemble qui va être lu lors de l'office et commenté par le célébrant. Voilà pour les petites indications à caractère culturel. Là, par contre, il n'y a pas de question dans le Trivial Pursuit qui vous permettra de rapporter les camemberts. Bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'entrer directement dans le texte, et on va à la fois l'expliciter. Le principe de nos lectures bibliques de l'été, c'est très interactif. Je plaisantais quand je disais qu'il faut demander la parole. On s'interrompt comme on veut, pour les questions, pour apporter sa propre compréhension, pour blaguer ou autre. Enfin voilà. Ne me laissez pas parler pendant toute l'heure. Bien. Alors.
Moi, j'ai une question avant de commencer.
Très bien.
Comment on explique le glissement entre le Nouveau et l'Ancien Testament ? Pourquoi le terme il a tellement changé ?
Alors, le terme n'a pas changé en lui-même, c'est qu'il y a eu une extension de ce qu'est la prière. En quelque sorte, les mots du départ sont restés les mots du départ. Et par exemple, prosekomai reste prosekomai. Mais en plus, des verbes apparaissent qui correspondent à des demandes qui ont été intégrées comme prière à part entière. Et alors ça, c'est pas forcément les rédacteurs bibliques, ce sont les croyants du 19e ou du 20e siècle qui ont considéré que telle demande était de l'ordre de la prière, et que le fait de demander constituait une prière. Mais on le conçoit très volontiers. Un autre texte qui ne se dit pas, quand Abraham est en train de discuter avec Dieu sur le sort de Sodome et Gomorre, dans le livre de la Genèse, Abraham demande à Dieu d'épargner la ville. Et ce dialogue est une prière, sans vouloir déflorer tout le thème, mais qu'est-ce que la prière sinon ce dialogue entre Dieu et soi ? Simplement, ce dialogue va avoir plusieurs centres de gravité possibles. Des fois, ce sera une sorte d'action de grâce, prière de remerciement, et parfois, ce sera une prière de demande, la supplique. Et parfois, ce sera pour soi, parfois, ce sera pour quelqu'un d'autre. Et donc, plutôt que de dire qu'il y a eu un glissement sur les termes proprement dits, effectivement, j'aurais peut-être plutôt dû dire qu'il y a eu une sorte d'extension, mais aussi un basculement. Oui.
Parce que là, on a vu intercéder, plaider, demander, supplier. On n'a pas vu positif comme les actions de grâce.
Non, parce que ce que je vous ai mis comme mots, ce sont les mots qui sont traduits par prier dans nos traductions françaises. Quand vous cherchez prier, en fait, ça renvoie à ces mots-là. Mais effectivement, la prière va déborder ce vocabulaire, et c'est le cas ici, puisque ces mots n'apparaissent pas dans ce texte. Et donc, tout l'intérêt, comme je vous le disais, c'est de ne pas se limiter à des textes où le mot prier apparaîtrait.
Parce que là, c'est assez restreint, c'est toujours un négatif. On implore, on supplie, alors qu'un dialogue, ça peut être tout.
Ouais. Mais on verra que ce que vous appelez quelque chose de plutôt négatif, la demande, exprime en creux quelque chose d'extrêmement positif. Vous voyez, quelqu'un qui se plaint de l'injustice, on va dire c'est négatif. Mais non, si cette personne se plaint de l'injustice, ça veut dire qu'elle a une idée très précise de ce que devrait être la justice. Et donc, la lamentation du psalmiste, en creux, est une posture conquérante et la traduction de son espérance intime.
Il peut se tromper.
Il peut aussi se tromper. Et nous avec.
Voilà.
Alors, tu m'as persuadé, c'est le verbe pata. Bon, c'est peut-être pas la peine que vous preniez tous les verbes. Je vous le mets parce qu'il y a quelques hébraïsants parmi vous. Voilà, donc c'est pour leur culture. Pata, qui signifie persuader, convaincre. Moi, ce que j'aime bien, c'est que la prière commence par le fait que ce n'est pas, forcément le croyant qui persuade Dieu d'intervenir et d'agir pour son compte, c'est Dieu qui persuade le croyant. Tu m'as persuadé, Éternel, tu m'as convaincu. Eh bien, moi, je crois que la prière, c'est d'abord cela. La prière, c'est pas simplement je dis à Dieu ce qu'il doit faire. D'ailleurs, je crois que c'est pas du tout cela. Comme le disait Wilfred Monod, la prière exauce Dieu. C'est-à-dire que la prière, c'est ce qui nous permet de commencer à discerner ce que peut être une espérance à l'aune de Dieu. Et on a exactement la même chose avec l'apôtre Paul. Lorsqu'il raconte sa conversion sur le chemin de Damas, dans le livre des Actes, l'évangéliste Luc dit à quel point Paul subit la conversion. Il ne décide pas de se convertir au christianisme. Sur le chemin, il est saisi par une expérience religieuse qui le conduit à changer l'attitude vis-à-vis de la foi chrétienne. Et quand il en parlera dans sa lettre aux Corinthiens, il dira finalement qu'il a été contrarié par Dieu. Et la contrariété, je crois que c'est une trace de la vie spirituelle, c'est-à-dire comme Jésus dans le jardin de Gethsémané, j'aimerais bien que la coupe passe loin de moi, mais ta volonté et non la mienne. C'est-à-dire que la prière, c'est ce moment où on prend conscience qu'il peut y avoir des intérêts supérieurs à notre propre désir, ce qu'on va appeler l'intérêt général. Et que l'intérêt général, finalement, je dois m'en préoccuper. Le devoir est un peu problématique, mais voilà, c'est cette idée-là. Tu m'as persuadé éternel, et je me suis laissé persuader. Ça traduit le fait qu'il y a une acceptation malgré tout. Vous voyez, ce n'est pas totalement subi. Je crois que c'est là que nous avons une trace de ce qu'est la foi, au sens de la foi dont parlait le théologien protestant Schleiermacher. C'est le fait d'être totalement saisi par la question de Dieu. C'est le fait d'être totalement saisi par l'ultime. Eh bien, ici, le croyant dit qu'il s'est laissé prendre, persuader, qu'il s'est laissé retourner, pour prendre le terme hébreu de la conversion, la fameuse teshuva. C'est ce qui arrive d'ailleurs à Paul. Il fait finalement volte-face de persécuteur de chrétiens, il va devenir le plus grand défenseur de la cause chrétienne. Puis en même temps, c'est une métanoïa, c'est un approfondissement de sa compréhension de ce qu'est la foi, hein, puisqu'il y a un moment de cécité, et puis il va à nouveau voir plus profondément ce qui jusque-là lui échappait. On a notre croyant qui s'est en quelque sorte fait saisir par Dieu. Il s'est laissé attraper en quelque sorte. Et ensuite, on voit que ça a une conséquence immédiate, c'est qu'il devient, la traduction dit, un objet de raillerie, tout le monde se moque de moi. Vous voyez, c'est une deuxième contrariété. Quand on est contrarié par Dieu, finalement, on devient contrariant pour le monde. C'est-à-dire que quand vous... Alors, c'est un peu... comment dire? C'est un petit peu dualiste, cette affaire. C'est soit on tourne le dos à Dieu, soit on tourne le dos au monde. On va voir qu'après, il va y avoir une synthèse dans ce texte. Mais c'est un peu l'idée selon laquelle, si on se met du côté de Dieu, alors on devient un objet de scandale pour le monde. En tous les cas, on devient visible aux yeux du monde. On n'est plus noyé dans les effets de mode, par exemple. En disant que « tu m'as saisi, tu m'as persuadé, et maintenant je suis... » Alors, c'est en fait « tout le jour et par tout le monde ». Il y a deux fois « call ». Donc, il y a une sorte de totalitarisme contre lui. Il devient, en quelque sorte, persécuté. Donc, je dirais que là, on a déjà deux éléments importants de ce qu'est la prière. Premier élément, c'est la prière est ce qui nous fait sortir de notre camp à soi. On ne se suffit plus à soi-même. Dieu contrarie notre narcissisme, finalement. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'on peut devenir une contradiction possible pour le monde, au sens où le monde est compris comme le lieu où la logique qui prévaut est une logique de domination et de pouvoir. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, je pense, dans l'évangile de Jean, lorsque justement Jésus dit « Mes disciples sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde ». C'est-à-dire qu'ils sont bien dans la création, dans le monde, mais pas selon la logique du monde, qui est une logique de pouvoir, ou dans le meilleur des cas, une logique d'équivalence. L'idée de l'évangile et des textes bibliques, c'est la logique du don. Bon, est-ce que par rapport à ce premier verset qui est finalement très dense mais très important, c'est à peu près clair? Est-ce que vous voyez d'autres choses? C'est dans le contexte où, en tant que prophète, il doit dire au monde qui l'entoure ces quatre vérités, qui ne sont pas vraiment très agréables à dire. Et il se rend compte que, pour lui, c'est vraiment important, cette mission-là, et qu'il a envie de l'accomplir. Il a envie de l'accomplir alors que, finalement, il va se mettre en danger. Et s'il est tellement en opposition avec la logique du monde, c'est qu'il a vraiment adopté la logique de Dieu. Et donc, c'est que Dieu l'a vraiment convaincu de prendre des risques au nom de l'intérêt supérieur, au nom du droit, au nom de la justice, par-delà la justice individuelle.
C'est ce qui va se passer pour Jésus, finalement,
non ? Aussi. La plupart des martyrs considèrent que leur sécurité personnelle vaut moins que la qualité de la mission qu'ils défendent. Qui peut être contestable. Parce que cette dimension sacrificielle n'est pas forcément celle qu'il faut suivre de façon mécanique ou aveugle. S'offrir en sacrifice et finalement faire valoir sa mort dès la première occasion venue, c'est pas forcément un bon calcul, disons.
Alors au début, la raillerie, objet de raillerie, puis un peu plus loin, c'est l'épouvante règne alentour. La réaction des gens qui voient cette folie, en somme, du personnage qui se rebelle contre le monde qui l'entoure, entraîne un premier mouvement, évidemment, de personnage ridicule, quoi, qui ne se conforme pas à ce qu'on devrait attendre de lui.
Oui.
Pourquoi épouvante, alors? Parce qu'on sent qu'il est dans le vrai, qu'il proclame, en somme, des vérités difficiles à écouter.
Oui, ça tient là encore à ce que Paul va théoriser sur la question du scandale de la croix. On le voit au verset 8 avec un terme très significatif, celui de la violence. En hébreu, c'est ramas. Et c'est un mot sémitique, ramas, la violence. On le connaît à travers le conflit israélo-palestinien. Et ce qui est épouvantable, c'est lorsqu'il y a un tel contraste entre une logique à laquelle on est habitué et d'un seul coup, quelqu'un qui fait valoir sa singularité, qui peut être, par exemple, la non-violence. Si on prend le cas d'un des acteurs non-violents les plus connus, Martin Luther King, il était un objet d'épouvante pour quelques shérifs et quelques politiciens qui ne voulaient pas entendre parler de roi civique américain pour la population noire. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait bien qu'il était extrêmement puissant par cette attitude et qu'il était susceptible de renverser l'opinion publique. Et donc, l'épouvante, elle vient de ce que quelqu'un arrive à opposer une puissance qui peut les mettre en péril. Et c'est bien ce qui va arriver, puisque les opposants vont boiter, puis chanceler, finalement. Et c'est un peu ce qui se passe dans la barque où les disciples et Jésus sont pris dans une tempête. Les disciples sont affolés, ils partent dans tous les sens, et Jésus, lui, est en train de dormir tranquillement. Et puis les disciples le réveillent en disant « Mais est-ce que cela ne te fait donc rien que nous mourions ?» Puis, grosso modo, il leur dit « Eh, ça va, tu calmes. » Hop, il prend la parole. « Bon, maintenant, la tempête, ça suffit. » Et voilà. Et vous voyez, c'est un jeu de contraste. C'est que la sérénité au milieu de la tempête peut être le meilleur élément pour mettre fin à la tempête. Exemple, quand vous êtes en animation de groupe, notamment avec des jeunes, tout le monde parle, etc., et vous devez prendre la parole pour leur expliquer quelque chose. Alors, il y a deux possibilités, la bonne et la mauvaise. La mauvaise consiste à essayer de parler plus fort qu'eux. Moyennant quoi, vous entretenez le cercle vicieux du bruit et de rajouter au bruit. La bonne méthode, c'est de parler bas pour attirer l'attention sur vous et les obliger à baisser le volume. Et après, vous pouvez parler avec le timbre qu'il faut pour être bien entendu. Mais le jeu de contraste, c'est-à-dire ne pas rentrer dans la logique de l'adversaire, c'est tout le sens aussi du sermon sur la montagne. Quand quelqu'un te frappe sur la joue gauche, présente un autre visage. Donc, c'est pas tu lui renvoies un coup de poing, ce n'est pas tu t'enfuis, c'est tu présentes un autre regard, tu présentes un autre visage, tu arrêtes d'être une tête à claque en quelque sorte. Parce que le texte ne dit pas qu'il faut présenter la joue droite, hein, il dit un autre visage, une autre figure. Donc, on a effectivement le croyant qui commence sa lamentation avec le fait que dès qu'il fait valoir sa singularité, on lui oppose de la violence, de l'oppression. Opprobre et risée de chaque jour, c'est le reproche et la dérision. Voilà. Donc, à la fois, ce qu'il dit est juste, mais il ne faudrait pas en faire une obligation. Ce que je veux dire par là, c'est que je constate aussi que bien des chrétiens ont tendance à prendre la posture du martyr pour justifier du bien fondé de leur foi. Autrement dit, je suis vraiment chrétien parce que je suis persécuté. Et qu'on est vraiment chrétien qu'à la condition que les autres nous veulent du mal. Et du coup, on va chercher des ennemis pour donner de la consistance à sa foi. Eh bien ça, c'est un malheur. Parce que ce que dit le texte, c'est que notre foi peut être l'objet de railleries, voire de violences, mais que ce n'est pas parce que nous sommes l'objet de violences que nous sommes forcément dans une foi juste. Les ennemis publics numéro un de la France ne sont pas forcément de bons croyants. Pourtant, ils sont persécutés par les services de renseignement. Bien. Deuxième, alors, premier point par rapport à la prière, la contrariété, le fait de se mettre à l'écoute de Dieu. Deuxième point, c'était d'être éventuellement en décalage, disons, par rapport à notre environnement. Le troisième point, c'est le verset 9, très intéressant. Je dirais, je vous le relis juste ce verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, c'est le verbe zakar, souvenir. Je vous le mets parce que c'est un mot, c'est un verbe utile, zakar, zakari par exemple. Et zikarion, c'est le mémorial, et la mémoire est extrêmement importante dans la foi juive. Donc, si je dis, je ne me souviendrai plus de lui, sous-entendu, de l'Éternel, je ne parlerai plus en son nom, je ne serai plus son prophète, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. Alors, je dirais qu'il y a là le troisième point de ce qu'est la prière, c'est de mettre en doute nos images de Dieu. Ce que fait le croyant ici, c'est ce que fera Descartes plus tard. C'est ce que disait Francine, finalement. Parfois, on se trompe. Eh bien, il faut soi-même, dans le cadre de notre vie spirituelle, penser la possibilité de l'erreur. Il faut que la prière intègre la possibilité de l'erreur pour l'annuler, en quelque sorte. Autrement dit, ce que fait le croyant ici, c'est de casser la possible idole à laquelle je m'adresse. C'est-à-dire qu'il remet en cause l'existence de Dieu. Vous voyez ? J'essaie de ne plus m'en souvenir, je ne parlerai plus en son nom, en quelque sorte, je le supprime de mes tablettes. Je fais comme s'il n'y avait pas de Dieu. Et ça, c'est l'expérience du doute cartésien. Est-ce que je ne suis pas en train finalement de m'inventer un Dieu? Est-ce que je ne vis pas dans une sorte d'illusion? Est-ce que tout simplement je ne me conforme pas à ce que tout le monde m'a dit, voilà, il y a un Dieu qu'il faut adorer, auquel il faut obéir, etc. Est-ce qu'on ne m'aurait pas menti tout simplement? Eh bien, la posture croyante, c'est de tester l'hypothèse selon laquelle tout cela ne serait qu'illusion. Et donc, le croyant va méthodiquement mettre en doute l'existence même de Dieu en tâchant de ne pas s'en souvenir et en n'en faisant plus mention, ce qui est une façon de l'éliminer, de l'effacer. Alors là, ça tient en inversé, mais une telle démarche doit prendre plusieurs mois. Il faut tenir bon. Et au terme de cette démarche, quelle est l'expérience de Jérémie ? C'est que Dieu est persistant. Dieu insiste. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant. C'est brûlé. Autrement dit, je n'ai pas pu éteindre ce feu mystique. Ce qui signifie que Dieu, ce n'est pas simplement une construction personnelle. C'est exactement le principe du doute cartésien. Vous savez, il en vient jusqu'à se dire, mais au fond, je pense donc je suis. Hein, c'est le bout du bout. Mais non, peut-être que c'est un esprit malin qui a mis en moi l'idée que je suis en train de penser. Et il ajoute, mais s'il l'a mis en moi, c'est donc que moi a une réalité. Et c'est donc que j'existe. Et ensuite, il va pouvoir retourner dans l'autre sens en disant « si j'existe, alors ça est possible, etc. » Eh bien, c'est ce que fait le croyant. Il découvre finalement qu'en éliminant tout, il reste ce feu persistant dans ses os. Et donc, il a une réalité, et une réalité doublée de quelque chose qui lui est étranger, le divin. Le divin n'est pas une construction de son esprit, c'est une réalité à laquelle il est sensible et dont il ne peut pas s'affranchir. Et alors ça, c'est vraiment un encouragement pour la vie spirituelle de chacun. C'est de temps en temps prendre le temps de casser les idoles possibles et de se demander si ce Dieu que nous adorons, ce Dieu que nous vénérons, n'est pas au moins en partie une projection de quelque chose. Et c'est toute la différence entre le Dieu réel et le Dieu de nos constructions personnelles. Ça vous va là ? Bien. Alors donc, le verset 10, c'est pas tout à fait « car j'apprends les mauvais propos de plusieurs », c'est plutôt « car j'ai entendu les paroles de plusieurs », qui sont des paroles de terreur. « Magor », vous avez le mot que vous pourrez retrouver. « Magor », c'est la terreur. D'où terroriser, terroriste. Donc, ça montre que le prophète, le croyant, n'est pas enfermé dans son obsession du divin, il est bien à l'écoute du bruit du monde. Et c'est bien la posture de celui qui prie, c'est d'être à la jonction de la terre et du ciel, en quelque sorte, du fini et de l'infini. Du monde sensible et du monde non sensible. Donc, la terreur règne alentour, Metsabib. C'est intéressant parce que Tsabib, ça donne l'idée que ça tourne. Enfin, quand on est habitué à la sonorité hébraïque, Tsabib, ça fait vraiment le son giratoire, quoi. On est comme emprisonné, quoi. Bib, c'est comme le biberon qui rompt. Enfin, vous voyez, c'est... Bon, après, on projette ce qu'on veut. Hein, je veux dire, je suis conscient de mes problèmes personnels. Bien. Accusez-le et nous l'accuserons. Alors, accuser, c'est peut-être un peu connoté. Le verbe, c'est nagad, et nagad, c'est simplement déclarer, en fait. Il n'y a pas cette connotation d'accuser. Nagad, c'est plutôt déclarer, révéler, mettre en évidence.
Là, j'ai raconté.
Oui, ouais, c'est plus juste. C'est plus juste parce que c'est plus neutre. Là, on voit que le traducteur a utilisé le contexte pour donner une couleur particulière à ce verbe. Mais le texte hébreu est plus neutre. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle, plus exactement si je boite. Et alors, peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Alors, c'est intéressant parce que le verbe surprendre, en fait, c'est persuader. C'est le verbe du premier verset. C'est notre verbe pata. Et donc, vous voyez, c'est intéressant parce que ça nous dit quel est le drame du croyant. C'est d'être pris entre deux forces. Il y a la force de persuasion du divin et la force de persuasion de notre environnement. Et comment tient-on les deux à la fois ? Est-ce que la prière, ce ne serait pas justement cela, de tenir les deux à la fois sans avoir besoin de choisir l'un contre l'autre ? Tout l'objet de ce travail spirituel du prophète Jérémie, qui, vous aviez raison de le dire, est aux prises avec une mission qui met sa vie en péril. On va le comprendre dans la suite. Il va même regretter d'être venu au monde tellement c'est dur. Eh bien, peut-être que justement la vie spirituelle, c'est de pouvoir tenir les deux ensemble sans avoir besoin de choisir l'un contre l'autre, sans avoir besoin de s'enfuir hors du monde, sans avoir besoin de rejeter Dieu. Et c'est quand même là, je pense, que une communauté de foi, oui, on pourrait dire une église, a son importance. C'est qu'elle nous permet de regagner en ténacité et en enracinement quand nous aurions soit la tentation de Venise, pour reprendre le terme d'Alain Juppé, qui voulait finalement fuir les affaires du monde et peut-être s'en remettre à ce lieu divin, Venise, où on est au plus proche de Dieu, j'imagine. Soit ceux qui, finalement, font quasiment vendent leur âme au diable et se plongent tout entier dans les affaires du monde, selon la logique du monde, en oubliant totalement cette logique divine qui est la logique du don, de l'amour et de l'altruisme. Donc, en tous les cas, ce verset 10 montre qu'il y a une sorte de rivalité et que le croyant doit faire face à cette rivalité. Ça vous arrive, ça, des fois, de sentir ce tiraillement ?
Parce qu'ils sont partis dans le désert pour prier aussi, tout seuls.
Oui. Ah oui. Ah oui, oui, il y a un monachisme qui va jusqu'à la solitude du désert. Verset 11. Alors, le verset 11, on a un premier retournement. Mais l'Éternel... Alors, le « mais » n'existe pas dans le texte hébreu. Il y a une petite conjonction de coordination, neutre, c'est le fameux « wav », ce qui peut être soit positif, soit négatif. Voilà, ça ne dit pas forcément la contradiction du « mais quand on prend la suite du texte, on voit qu'effectivement il y a une sorte d'opposition. « Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. » Alors, le héros, c'est le « gibor ». Le « gibor », il est intéressant. Parce qu'on le retrouve dans Gabriel. Et Gabar, qui donne donc Gabriel, qui donne Gibor, c'est, comment dire, c'est un peu la virilité, quoi. Vous voyez, si Gibor, plutôt que le héros, aujourd'hui, dans un langage vraiment inconvenant, je vous l'accorde, on dirait c'est un mec. Ouais, c'est le mec, quoi. C'est celui qui assure, quoi. C'est cette dimension, alors tout à fait stéréotypée, hein, du pompier viril qui arrivera à sortir les personnes des flammes ou autre. On sait à quel point d'ailleurs les pompiers sont des héros. Donc, l'Éternel est justement celui qui peut retourner la situation, dans une certaine mesure. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et ne vaincront pas. Alors, le verbe « vaincre » est quand même celui qui revient tout le temps. On l'a au verset 7, c'est le verbe « yakal ». Alors, à chaque fois, c'est conjugué différemment, donc vous n'allez peut-être pas très bien le reconnaître, mais comme je vais vous l'écrire, vous allez à chaque fois le repérer. Au verset 7, le verbe « yakal », il est conjugué, c'est « watukal ». C'est le 1, 2, 3, 4, 5e mot, « watukal ». Donc ça, c'est le verset 7. Ensuite, on l'a au verset 9, c'est le dernier mot. Ukal. Là, c'est la première personne du singulier. On l'a à nouveau au verset 10 avec Wenukla. Et on l'a à nouveau au verset 11 avec Yukalu. Voilà, comme ça vous pouvez éventuellement le repérer sur votre texte. Juste pour vous montrer à quel point le verbe vaincre, yakal, structure ce texte. Et à quel point la prière est une lutte en fait.
Ça fait penser moi, au combat de Jacob.
Ouais. Avec ce personnage mystérieux avant de retrouver son frère Ésaü. Alors, dans le texte de Genèse, c'est Genèse 32, hein, le combat de Jacob avec le personnage mystérieux, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est qu'il combat avec. Il ne combat pas contre, il combat avec. Là, il y a quand même un combat contre, en tous les cas, l'environnement. Mais on voit que la prière est un combat. une lutte, une haute lutte. Pas la, c'est pas le truc tranquille, la prière. Et il ne faut pas avoir une vision mièvre de la prière. Quand on parle de prier, quand on prie, faut pas se dire que c'est quelque chose de simplement doucereux, gentillet. En fait, on assume le tragique de l'existence qui est ce déchirement entre le fini et l'infini dont on parlait juste avant. Bon, je vous le théâtralise un peu pour que ça soit tenu quand même. Mais on verra qu'il y a des prières un peu plus tranquilles quand même. Bien, donc, ils seront remplis de confusion. Il va y avoir de la honte, en fait. Bouche la honte. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Plus que la honte éternelle, là, c'est la disgrâce éternelle, en fait. La honte, elle est un peu plus haut. La honte, elle est au niveau de la confusion. Et ce sera une disgrâce éternelle. Ensuite, l'éternel des armées. Alors ça, c'est un peu... Oui.
Ce que je ne comprends pas, c'est que là, on a dit qu'en fait, la prière, ça permettait de pouvoir tenir entre les deux forces qui jouent.
Oui.
Là, on a l'impression que c'est parce que la force qui est contraire va perdre qu'on va se dire, ben voilà, je peux rebasculer sur l'autre côté. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des choses de mauvaises, elles restent. Quelqu'un peut penser autrement que moi. Si moi, après, j'arrive à avoir mes propres opinions, lui, ne peut pas me changer.
C'est d'ailleurs...
Il change que ça va me conforter.
D'ailleurs, en fait, c'est exactement le processus inverse qui va s'enclencher. On va le voir avec la deuxième partie. C'est pas parce que lui change que je suis libéré, c'est parce que je vais changer que l'autre va être libéré. Donc, c'est pas la disparition des ennemis qui produit ma tranquillité, c'est mon nouveau rapport au monde qui va changer mon rapport aux autres et qui va peut-être changer les autres et en tous les cas qui va changer la situation.
Mais là, dans ce passage, c'est pas très clair. On a l'impression que c'est les persécuteurs qui changent et pas la vue de Jérémie sur les persécuteurs en disant ils ont tort.
Ouais.
C'est pas évident.
Alors, ça n'empêche qu'ils peuvent quand même avoir tort. Mais on va voir qu'il va faire un travail d'anamnèse après, remonter jusqu'à lui en tant que problème, et lui par rapport à sa naissance. Et c'est ça qui va être décisif. Juste sur l'éternel des armées, donc c'est Yahout Sebaot. Traduire par désarmé, c'est un petit peu malheureux. C'est plutôt la dimension universelle du divin qui est en jeu ici. Alors peut-être comme général en chef des armées que nous sommes, mais il n'y a pas forcément une connotation très guerrière. Bon, il y a ce verset... Ah oui, alors juste la fin du verset 12 est intéressante. Hein. C'est à toi que je confie ma cause. La cause, en fait, ici, c'est le rib. Et le rib, en fait, c'est le procès. Aucune connotation bancaire. C'est le procès, c'est ce qu'il y a de... Ça va concerner ce qu'il y a de plus intime en moi. Et alors, juste avant, je confie ma cause. Gala, c'est à la fois révélé et exilé. C'est le fait que je révèle, c'est-à-dire que je mets en évidence, on parlerait de coming out aujourd'hui, voilà. Et on exhume, voilà. Et puis en même temps, le fait d'exiler, c'est le fait que je ne le garde pas pour moi. Le verset 13, donc vous voyez, c'est tout à fait autre chose. C'est quasiment l'intégration d'une strophe de psaume. Et on le voit bien par deux manières. Le premier mot, « shir », c'est le cantique. Shir Hashirim, Cantique des Cantiques. Donc c'est vraiment, vous voyez, la poésie spirituelle hébraïque. Et puis, le troisième mot, Allelu, Alléluia, vous connaissez, louer l'Éternel. Ben, en fait, on l'a quasiment, Allelu et Yahou. Quand on le contracte, ça fait Alléluia. Alal, c'est la louange, et c'est ce qui donne les psaumes. Les psaumes sont des louanges, en fait. Donc, on a quand même, vous voyez, quelque chose qui est de l'ordre de la louange et de l'action de grâce. Ensuite, le verset 14, on retourne dans les affres avec la malédiction maudit. Arour, maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. On va avoir ici un travail d'anamnèse, c'est-à-dire que l'homme va remonter jusqu'au plus loin de son histoire et donc de sa mémoire. Oui. C'est en fait aller au bout de son désespoir pour en trouver les racines. Alors ça, c'est le quatrième point de la prière, c'était révéler son procès, révéler son affaire, le mettre à jour. Ça, c'était donc le verset 12. Et puis le cinquième point que je retiens pour ce texte aujourd'hui, l'anamnèse, c'est remonter la filiation. Vous voyez, de qui suis-je le fils, comment c'est arrivé, et je dirais remonter la filiation du problème. Et c'est là où vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas les autres qui vont changer, qui vont régler mon problème, c'est moi qui vais remonter aux racines de mon problème. Parce que s'il y a bien quelque chose que je peux changer, c'est moi. Rejoindre la source de la difficulté. Là où j'ai prise. Vous voyez, il ne faut pas imaginer que la prière, ce serait un acte un peu surnaturel qui permettrait d'intervenir sur des situations très éloignées. En fait, la prière, c'est intervenir sur des situations où je peux intervenir, mais intervenir sur cette situation de façon éclairée, de façon consciente, de façon juste. Et même quand on prie pour la paix dans un pays où on ne vit pas, il y a une légitimité, parce que si la prière accomplit tout ce que nous venons de dire, alors la prière, c'est cet acte de vérité qui nous permet d'être plus juste sur la nature de la situation. Vous voyez, dans un conflit armé, par exemple, dans les communautés chrétiennes, souvent, le conflit israélo-palestinien est quand même porté dans les prières. Eh bien, la prière, quand on est en France, à Paris, et qu'on n'a pas l'intention d'aller sur le lieu du conflit, c'est peut-être ce moment d'accès à la vérité où on va arrêter de dire n'importe quoi sur ce conflit, par exemple. Et on va arrêter d'être partisan de façon un peu aveugle, sans bien connaître les tenants et les aboutissants de la situation. Vous voyez, un peu d'humilité, ça sera l'objet de la rencontre suivante. Donc, en remontant comme cela à travers toute cette filiation, il va finalement pouvoir assumer les paradoxes. Et en assumant les paradoxes, il va être en mesure de pouvoir assumer le grand paradoxe auquel il était confronté dès le départ, le paradoxe entre ce que Dieu lui demande et ce que la société attend de lui. Autrement dit, le paradoxe entre ce qui est juste et ce que une communauté souhaite, ce hiatus entre ce qui est bon de façon absolue et ce que l'on désire de façon particulière. Eh bien, en remontant jusqu'à ce paradoxe qui nous est constitutif, on est en mesure de pouvoir assumer d'autres types de paradoxes. Après, ça sera juste une question de changement d'échelle. Mais si on est capable de gérer notre propre si on est capable de s'assumer finalement, nous qui sommes bourrés de contradictions, eh bien on sera bien plus en mesure de pouvoir assumer le reste. qui est juste un changement d'échelle, finalement. Le verset 17, c'est pas inintéressant. « Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte ?» Eh bien, vous voyez, on parle parfois du syndrome Peter Pan. Ce sont ces enfants qui ne veulent pas sortir de l'enfance pour devenir adultes, à la manière de Peter Pan qui préfère rester sur l'île imaginaire. Eh bien, parfois, il y a pire que le syndrome Peter Pan. Il y a le syndrome Jérémie. C'est le fait même de regretter d'avoir été enfant, parce que c'était déjà trop, finalement. C'est dire aussi l'horreur de ce qu'il subit. Eh bien, la prière permet d'aller au bout de cette horreur-là et de pouvoir reconstruire ensuite et de pouvoir réadopter une posture conquérante. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? C'est en fait, consumer, c'est finir, disparaître, hein, être consumé. Et alors, je ne vous l'ai pas mis sur la feuille, mais je vous lis juste le verset qui suit. Donc c'est le chapitre 21. Donc il y a cette question, hein, on voit que Jérémie est au bout de la dépression quasiment. Et le verset suivant, « Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, lorsque le roi Sédécias lui envoya Pachour, fils de Malkia, et Sophonie, fils de Maasia, le sacrificateur, pour lui dire, « Consulte pour nous l'Éternel, car Nabuchodonosor, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être l'Éternel agira-t-il à notre égard dans la ligne de tous ses miracles, afin qu'il s'éloigne de nous. » Jérémie leur répondit, « Vous direz à Sédécias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, etc. etc. » Il a repris le dessus. C'est en allant au bout de son malheur qu'il peut réengager un processus de bonheur. C'est-à-dire que le contraire de la prière, je dirais que c'est le déni. La prière, c'est ce qui permet d'aller au bout de sa vérité. C'est la fin du verset 12. C'est vraiment exercer son propre procès. C'est aller au bout de son jugement. Parce qu'après, on est libéré de tous ces non-dits qui nous entravent. Vous voyez, il y a une dimension psychanalytique dans la prière. En quelque sorte, Freud a exploré peut-être des champs que la Bible n'a pas explorés, mais prenez les textes bibliques comme des textes symboliques, vous n'avez pas besoin de la mythologie pour forger les outils psychanalytiques. Psychothérapie, en français, enfin psychothérapie c'est du grec, l'équivalent latin c'est cure d'âme. Bon, la prière a cette fonction d'auto-analyse, pour reprendre le terme que Freud avait appliqué à lui-même. Voilà. Allez, prochaine fois donc, l'apprentissage de l'humilité, ça sera dans l'évangile de Luc au chapitre 18.